va à Bordeaux dans 10 ans pour être cultivé à Lille ou à Bruxelles. Donc on le vit tous les jours.
Les premiers vignobles en Scandinavie, en Angleterre.
Il y a des vins épatants en Angleterre. C'est quand même pas un pays qui est originellement favorable au vin.
Bon, il y aura les Vermentino du Chablais alors.
Non, peut-être pas jusque-là. Moi, je serai plus de ce monde, bien heureusement.
Bon, on va se retrouver, hein, Philippe Jex, d'ici quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler de ce beau projet Grandeur Nature.
Radio Chablais, programme de nuit.
Long, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Philippe Jex, on se retrouve dans ce vignoble printemps. Ça démarre quand là ? J'ai vu les bourgeons. Hein. Les bourgeons sont là déjà.
Oui, là, c'est déjà démarré depuis 10 jours. On n'a jamais vu démarrer aussitôt.
C'est vrai ?
Il y a 15 jours, il y avait déjà des bourgeons dans certaines vignes. C'est tout à fait extraordinaire.
Donc ça veut dire, sauf aléa, on sait que.
Il y a quelques règles. 100 jours après ci, 40 jours après la véraison, 100 jours après la floraison. Mais ça ne faut pas trop y compter. Mais on sait par définition que si ça démarre très tôt, on vendangera très tôt. Le seul problème qu'on voit, c'est que ça démarre très tôt en mars ou en avril. Et comme on risque des gelées jusqu'à fin mai, les vignerons dorment mal pendant quelques semaines.
Ouais, là on est dans le, comme les arbres fruitiers d'ailleurs.
Exactement,
on est dans ce moment dangereux où s'il y a une gelée nocturne.
Ah, c'est cuit là.
Ouais.
Ah, c'est cuit là. Ouais. On a eu de la pluie, il y a de l'humidité. S'il fait moins 1, moins 2.
Mais il n'y a rien à faire. Parce que dans le Valais central, on voit les bougies, on voit l'arrosage.
Il y a quelques essais, des petites choses comme ça. Aux bougies, dans les plats, dans la plaine, j'y crois, évidemment, ça fonctionne. Dans le coteau, vous savez, vous connaissez le froid,
les airs,
etc. Ouais. Donc je pense que dans le coteau, ça ne sert à rien.
Bon, ça fait partie de l'histoire millénaire de l'agriculture, du vin, c'est le climat.
C'est ce qui rend ce métier
merveilleux.
Il est fait de merveilles et de modestie.
Et voilà, de grandes misères et de beaux plaisirs. Bon, vignoble grandeur nature, Ivorne grandeur nature plutôt, c'est un projet par rapport à ce qu'on disait en première partie, hein, il faut se mettre dans l'époque, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue commercial, en analysant, en faisant une sorte de photographie et en agissant sur un terroir. Et l'originalité de ce truc, c'est qu'on le fait tous ensemble. 2019 lancé.
Ouais, 2019, lancé ce projet. On va pas revenir sur l'épisode du Covid. Évidemment, il s'est rien passé pendant une année et demie pour les raisons qu'on
s'est pas. Parce qu'en 2019, on disait 4-5 ans.
C'est toujours 4-5 ans, mais on peut considérer dans le fond que le projet a démarré en 2021-2022, effectivement, avec la Haute École de Changin qui nous accompagne dans ce projet. On a la majorité des surfaces et des vignerons qui font partie de ce projet, qui est dynamique. On a trouvé le financement, comme vous le savez, pour ce projet sur 5 ans. Avec un montant très conséquent qui a été financé par la fondation de famille Mava, la fondation de la famille Hoffmann. Et puis aujourd'hui, on y travaille.
Juste un mot sur cette fondation, hein, famille Hoffmann, famille de la pharmacie, hein, de la chimie, et qui a œuvré pendant de très longues années, Luc Hoffmann, hein,
fondateur de cette fondation,
dans l'environnement, à travers le monde entier.
Absolument.
Et c'était un petit peu le dernier projet, parce qu'elle est plus active. Là.
Absolument, c'était, à ma connaissance, le dernier projet financé par la fondation Mava. Non, pas des montants comme ça, mais si vous saviez, on ne va pas en parler à l'antenne, mais les montants extraordinaires qui ont été versés à travers cette fondation pour la protection de l'environnement dans le monde, ça relativiserait l'impression qu'on a parfois sur les personnes très riches.
Ouais.
Ceci mis à part.
On peut débattre de ça.
Ouais, on peut débattre, ça fait l'objet d'un autre sujet, j'ai des choses à vous dire. Et puis, donc, ce projet fonctionne, Changin nous accompagne là-dedans de manière extraordinaire. On a fait, comme vous l'avez signalé, en état des lieux au début de ce projet en 2019 avec Raymond Delars qui est biologiste à Hollande et avec son bureau qui a fait un état des lieux pour savoir comment était le vignoble d'Ivorne, ce qui nous a permis
Mais ça veut dire quoi, comment était? Parce qu'on sait qu'en gros c'est du Chasselas et quelques autres cépages.
Oui, mais ça, il
n'a
pas fait l'analyse des cépages, mais l'analyse du sol, de l'environnement,
du
biotope,
autres plantes.
Absolument, les autres plantes, les oiseaux, les mollusques, les escargots, les serpents, les
arvers.
Le bruyant zizi et la linotte mélodieuse, c'est des oiseaux qui nous rappellent quelque chose. Et puis le constat était finalement de se dire, tiens, malgré une culture intensive, le vignoble d'Ivorne est en bon état, avec la périphérie que sont les forêts de la commune d'Ivorne. Et puis sur la base de ce constat, on a pu faire un projet avec Changin, sur un programme sur 5 ans, pour que ce projet... On a toujours utilisé le mot bio qui fait parfois peur. C'est pas tellement l'objectif bio. C'est de mettre en place tous ensemble un vignoble vertueux, respectueux de l'environnement, de la biodiversité. En deux mois, faire le maximum pour l'environnement, tout en ayant à l'esprit que l'entreprise doit gagner de l'argent. Mmh. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'il faut mettre dans la balance. On peut faire de l'écologie extrême.
Bon, vous dites le mot bio fait peur, mais si des gens comme vous se mettent à l'utiliser, oui, il fera moins peur. Vous citez sur le site internet de ce projet que quelques grands domaines très prestigieux dans le Bordelais, etc., se sont mis au bio, à la biodynamie, non seulement pour des idées de vertu, mais aussi pour des idées économiques. Je peux vous
donner un scoop. Il y a un fameux domaine en Toscane, très fameux domaine, peut-être le plus important et le plus connu à l'étranger, qui nous a contacté en fin d'année, le directeur général, pour dire on a entendu parler par une fiduciaire luganaise, je ne sais pas pour quelle raison, on a échangé pendant des heures au téléphone et par vidéo. Il souhaite prendre notre modèle Ivorne Grandeur Nature pour en faire un modèle dans leur domaine. Pour ne pas le cacher, c'est Sassicaia.
Oui,
c'est quand même pas rien. Et pour nous, c'était assez flatteur, finalement, qu'on fasse office de précurseur, d'explorateur dans ce domaine. Et comme vous l'avez signalé, non pas tout seul sur notre domaine, ça serait fait depuis longtemps, mais tous ensemble. Parce que l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de protéger l'environnement au maximum, puis en même temps d'utiliser ce projet Ivorne Grandeur Nature en termes de communication pour vendre mieux nos vins et plus cher.
Bon, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller convaincre les propriétaires, les vignerons.
Mais bien sûr.
Ça, c'est fait. Vous avez quel pourcentage des vignerons d'Yvonne?
À peu de choses près en termes de surface. Parce que c'est ça qui est important. On est à près de 80% des surfaces qui sont inscrites au projet Yvonne Gordeur Nature. Mais il y a évidemment quelques résistances que... Je perds pas espoir, parce que le constat aujourd'hui en termes d'environnement, je crois qu'il n'y a plus besoin de faire de grandes discussions. Il n'y a qu'à ouvrir la télé et puis on est au clair. Donc on sait dans quelle direction on doit aller, mais en même temps c'est compliqué. Travailler dans le sens de l'environnement, faire du bio, comme vous le disiez, ça coûte cher, ça produit moins. Dans une époque où le vignoble ne va pas extrêmement bien, et il faut trouver des vignerons qui écoutent ça.
Qui ont le sens de l'aventure.
Qui ont le sens de l'aventure, mais surtout qui voient plus loin que demain. C'est pas aujourd'hui le projet, c'est dans 5, 10 ou 15 ans. Quand on pourra vraiment utiliser ce projet Vendre Grande Nature pour valoriser nos vins, à ce moment-là, peut-être que les derniers vignerons qui ne sont pas comme enthousiastes pour ce projet rejoindront le train du futur.
Ouais, moi, ça remue mes convictions démocratiques, hein, votre affaire, là, parce que j'y réfléchissais en venant vous voir, et je me disais, voilà... En allant discuter, en prenant les gens les uns après les autres, en créant un modèle, on trouve le volontariat. Alors que si on avait fait une votation communale en disant « Est-ce que vous voulez que le vignoble passe au bio ?», ça aurait été refusé quasiment certainement.
Oui, probablement. Mais je peux vous donner différents scoops. Je vous ai parlé de Sassicaia tout à l'heure. Vous savez qu'Yvorne a un vignoble qui est très connu, mais on a également un grand domaine agricole. Toute la plaine du Rhône sur la commune d'Yvorne est cultivée en agriculture. La plupart des agriculteurs de la plaine du Rhône sont déjà en bio et nous ont demandé de rejoindre notre projet. Dès le départ, moi, je n'avais pas souhaité qu'on élargisse à l'agriculture parce que je trouvais que c'était déjà assez compliqué de le faire sur le plan viticole. Mais aujourd'hui, la demande, elle vient des agriculteurs de la plaine qu'on a rencontrés. Il y a une petite commission qui s'est mise en place. Il y a une journée de la biodiversité qui est fixée d'ailleurs au 4 mai, sauf erreur. Et à l'intérieur de cette journée de la biodiversité, nos amis de la plaine, qui sont agriculteurs, vont y participer largement parce qu'ils sont... en tout cas aussi en avance que nous, si ce n'est plus. Alors c'est extraordinaire de voir que dans le fond ça suscite des envies aujourd'hui, et finalement, comme tous les projets, on doit faire envie. Pour vendre une bouteille, il faut faire envie. Pour faire un projet comme ça, il faut faire envie. Les gens doivent avoir envie d'y participer.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour un producteur d'entrer, parce qu'il y a un cahier des charges, hein, c'est pas juste une étiquette marketing, il y a un cahier des charges. Qu'est-ce que ça implique?
Alors ça implique un effort personnel, ça veut dire de la part du propriétaire, de la part des collaborateurs, il y a un cahier des charges qui est consultable, bien sûr, sur
Internet. Élaboré avec Changin, d'ailleurs.
Qui est élaboré avec Changin, qui est sous 8 chapitres, avec différentes mesures, de base, moyenne et plus avancée. On y adhère, on le fait, mais on le fait à notre rythme. On a voulu faire un projet où il n'y a pas d'interdiction. On suppose que les gens vont le faire de manière enthousiaste. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce projet. Alors, les agriculteurs de la plaine y participent, à présent, c'est formidable. Notre garde forestier qui s'occupe du domaine des agites, enfin, les forêts communales, entre autres, y participent aussi au comité, donc les forêts en font partie. On a un projet global. Je dois avouer parfois que je me demande pourquoi tout le monde ne s'est pas levé spontanément en disant « c'est génial, faisons-le ».
Oui, ben pourquoi ?
mais parce qu'il y a quelques obligations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué. Parfois,
on
va parler
d'un exemple, les produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'on en fait ? On n'en met plus ? Fait différemment ?
Mais il y a des programmes phyto qui sont dans le cadre bio. Il y a 1000 solutions. Mais ce qu'on veut, c'est limiter les herbicides, c'est éviter le glyphosate dans la mesure du possible, ouais. Même si ce n'est pas un herbicide aussi épouvantable qu'on a bien voulu le dire. C'est limiter les produits phyto que vous avez évoqués. Il y a plein de solutions, il y a plein de vignerons qui le font. À côté de ma cave, il y a un vignoble qui fait de la biodynamie. Tout va bien. Mais il faut le faire sérieusement. Ce n'est pas un métier de rêveur. J'utilise des fois cette image un petit peu excessive de l'écolo qui a des boucles d'oreilles tout le tour de la tête et des chapeaux en macramé. Il ne faut pas rêver pour faire ça. C'est du travail, ouais. C'est compliqué, c'est coûteux et ça produit moins, en tout cas au départ. Alors, c'est une équation qui est difficile à faire comprendre et je comprends parfois mes amis et collègues qui se disent Attends, c'est déjà compliqué, si on met encore une couche, ça va être encore plus compliqué.
Vous m'avez dit être un vieux libéral dans la première partie de cet entretien. Cet écolo avec les sandales en macramé, là, vous lui reconnaissez son utilité de lanceur d'alerte depuis 40 ans. On l'a bien souvent moqué, on l'a ignoré, on l'a combattu.
Mais bien sûr, on parlait tout à l'heure d'une conseillère nationale bien connue qui fréquente Montcarnot, si ce n'est assidûment, en tout cas de temps en temps. Évidemment que je comprends ça et j'y adhère. Seulement, il y a le fond et la forme. Et comme libéral, je veux dire, moins d'État, j'aime pas les interdictions, j'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et j'aimerais que les gens adhèrent à ce projet spontanément, volontairement, en comprenant l'intérêt qu'il a à moyen terme.
Bon, c'est là que je faisais la comparaison avec une votation communale. Hein. C'est tout à fait enthousiasmant de voir qu'en effet, on peut entraîner l'enthousiasme plutôt que demander de décider. Et puis les gens sont un peu tétanisés.
Bien sûr, je peux vous donner encore une information dans le cadre de ce projet Yvan de Grande Nature. Puisque nous sommes. Il n'y a que des scoops aujourd'hui. On gardera les meilleurs peut-être après l'interview. On a dans le cadre de ce projet, donc, non pas l'aide, mais la participation effective et dynamique de la Haute École de Changin. Dans le cadre de ce projet, une des scientifiques qui nous accompagne, qui s'appelle Serena Fantasia, nous a proposé de faire un travail de doctorat sur le changement climatique dans le cadre du vignoble d'Yvorne. Et ça suppose bien sûr un investissement conséquent sur 5 ans. On a trouvé le financement. Si je vous dis que c'est grâce à André Hoffmann, vous l'aurez compris, bon, mais à titre personnel,
co-président de ce projet.
Qui a accepté de financer ce projet pour imaginer ce que sera le changement climatique dans le vignoble. On va monter des petites serres sur certaines parties du vignoble pour imaginer quelle sera la
Créer des conditions de plus de température,
de
etc.
De plus de température, ouais. De moins de pluviométrie, et voir comment la vigne réagit au fil des années avec des sondages dans le terrain. Enfin, je vous épargne les détails, c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que dans ce projet, on fait vraiment un travail de précurseur. Travail de précurseur qui non seulement a de l'intérêt pour nous, les vignerons, mais qui a un intérêt national et international, puisqu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui se disent « Non, ça bouge quand même pas mal à Yvorne, ce petit village méconnu que personne ne connaît. »
Ouais, en tout cas, ça fait envie, hein, ce que vous nous racontez, plus dans cette idée d'une profession qui prend les devants, hein, plutôt
Absolument.
Que de voir arriver quelque chose qui s'annonce, pas
on
joyeux.
On n'est pas attentif, on essaie d'être un peu proactif.
Bon, je reviens un peu à la faune. Hein. Il y a aussi, c'est un complet retourner, hein, plutôt que d'atomiser au napalm toute espèce vivante qui pourrait risquer de faire du mal aux raisins, on essaye de sauver les petits, les tout petits animaux qui sont là.
Absolument. Et d'ailleurs, on l'a appris avec Raymond Delarze, un des marqueurs de la biodiversité, c'est les mollusques. Alors nous, on voit les gros escargots qu'on mange de temps en temps dans nos assiettes, mais il y a tout le reste qui sont des marqueurs. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on a aussi institué ce système de biotopes. On souhaite qu'à moyen terme, il y ait 200 petits biotopes à Yvorne. Des biotopes de 20, 40, 50, 100 mètres carrés, tout petits, mais qui sont des relais de biodiversité. Vous êtes encore un peu jeune, Florian, pour vous rappeler le vignoble d'Yvorne, il y a 50 ou 60 ans. Il y avait des cerisiers, il y avait des pêchers de vignes, il y avait toutes sortes de choses. On avance
ça
rien.
Ça m'amène une conclusion, parce qu'on arrive au bout, mais c'est ça. Moi, je trouve ça dingue. Chaque fois qu'on est dans l'innovation face à ces questions climatiques, on se dit, faire pour mon enfant, c'est finalement faire comme mon grand-père.
Mais bien sûr, c'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est une chouette conclusion.
On reste là-dessus, et on rappelle cette journée de la biodiversité, hein, surtout le vignoble d'Yvorne.
Samedi 4 mai à Yvorne, où chacun peut s'inscrire et venir, vous serez les bienvenus, en tous les cas pour la visite, et peut-être même pour un apéro qui suivra.
Merci à vous, Philippe Jay.
Merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre ?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, la 5e symphonie de Beethoven.
dirigé par le chef d'orchestre allemand Johannes Furtz von Arsch. Cinquième symphonie de Beethoven, dirigée par le chef d'orchestre allemand Johannes von der Arsch. Magistral.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de te détendre?
La minute hawaïenne, c'est la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Quanta Riviera propose ce 28 avril un concert. C'est un chœur de jeunes de la Riviera. On en parle avec la chef de chœur, Lydiane de Graffenried. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, nous raconter brièvement l'histoire de Quanta Riviera.
Oui, volontiers. Elle est assez récente. Dans l'idée de toujours pouvoir faire de la musique avec des gens autour de nous, toujours plus. Et puis, le côté social d'un chœur est assez important pour moi et pour les deux autres personnes qui ont créé le chœur avec moi, Gaëlle Mellet et Théa Badou. Et puis, nous avons réalisé les trois qu'il n'y avait pas de chœur de jeunes dans la région de la Riviera. On compte vraiment beaucoup de chœurs mixtes de différents styles. Mais de cœur de jeunes qui ont cette particularité-là, il n'y en a pas. Donc nous l'avons créé pour pallier ce manque. Et puis, c'était donc il y a quelques mois, nous avons trouvé le nom, trouvé une salle, et puis appelé les gens autour de nous pour les inviter à se joindre. Et puis, on a commencé les répétitions en septembre pour arriver à ce concert qui arrive tout là bientôt.
Ben ouais, alors on l'a dit, hein, ce 28 avril, c'est à l'église Sainte-Claire à Vevey. Alors, qu'est-ce que on va découvrir? Qu'est-ce que vous allez présenter?
Comme premier programme, nous avons choisi plusieurs pièces de divers styles, de façon très éclectique. Autant des pièces traditionnelles de quelques pays différents, la Suisse également, avec un peu de romanche, mais aussi des pièces chorales, vraiment écriture chorale, c'est-à-dire que elles ont été écrites directement pour des chœurs, en comparaison à des pièces plus chansons françaises ou pop qui, elles, ont été arrangées pour les chœurs. Et donc, on a vraiment un mélange de toutes ces pièces-là, autant jazz que plus classique que même de la Renaissance, etc.
Ouais, le but, c'était de montrer que les jeunes respectent, entre guillemets, la tradition chorale, mais aussi vous amener votre touche et justement votre énergie et votre jeunesse.
C'est ça, et d'explorer vraiment la grande variété du répertoire qu'on peut faire avec un chœur qui n'est pas cantonné à peut-être un cliché qu'on pourrait avoir de musique d'église et d'un chœur qui chante au messe.
Quanta Riviera, donc c'est ce dimanche à l'église Sainte-Claire à Vevey. Toutes les infos sur quantariviera.ch. Merci d'avoir été avec nous, Lydiane de Graffenried.
Merci beaucoup.
Très bonne journée, à bientôt.
Au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le MAG, c'est une région magnifique avec plein de trucs qui s'y passent. C'est pour ça qu'on te les raconte du lundi au vendredi après le journal de 17h. On commence aujourd'hui par un événement qui fait plaisir aux petits comme aux grands et qui se tiendra cet été. Xavier Borgeau, bonjour.
Hello Loïc. Effectivement, c'est parti, on va dire comme ça, pour la 6e édition du Chablouz Festival à Montée, les 9 et 10 août prochains. Donc le parc du Crocheton va se remplir de notes teintées de blues, de rock, de groove. Et le plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des festivaliers, 6 concerts gratuits partis sur 2 soirées feront donc le bonheur des Chablousiens et des Chablousiennes, avec notamment la venue des Belges de Blues Bones, ou encore le duo, on va dire, quasi-montaisan de tout, puisque l'un des deux membres du duo habite ici, à Monté. Et on parle de cette édition, donc 2024, avec un des cofondateurs du Chablouz, Pascal Vigolo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, 6e édition, est-ce que vous auriez pensé au début, moi j'ai encore l'image de cette première édition, que ce festival existerait encore, aurait son public et toucherait aussi au fond du cœur des Chablaisiens?
Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question. On va dire que quand on construit un festival, on pense surtout à la première édition et à rien oublier.
Et à pas se planter.
Exactement, ouais. Après c'était je pense dans notre inconscient un rêve assez fou que ce festival perdure. Et puis voilà, c'est vrai que neuf ans après, vu qu'il y a eu trois ans de pause forcée. Neuf ans après, on est toujours là. Et puis on avance année après année. Et puis on essaye de faire le boulot le mieux possible.
Et il faut le rappeler, c'est assez rare, c'est un festival entièrement gratuit.
Exactement, oui. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de clôture. Tout c'est ouvert, donc il ne faut pas hésiter à venir.
Voilà, on peut passer, on entend des notes, et puis on vient tout simplement au parc du Crocheton.
Exactement.
Et est-ce que c'était une envie, dès le départ, de faire un festival qui soit accessible à tous, gratuit?
Oui, c'était une des valeurs fondamentales. Le but, c'est vraiment de promouvoir et de faire découvrir ou redécouvrir la musique blues sous toutes ses formes. Et puis, on a bâti ce festival dans ce parc du Crocheton qui venait d'être rénové à l'époque. Et on s'est dit, il faut absolument mettre aussi ce lieu en valeur. Donc, ça serait dommage de monter les clôtures autour. Il faut que ça se voit, quoi. Il faut que ce soit ouvert et puis accessible à tous.
Alors, un festival gratuit, mais qui n'enlève rien à la qualité des groupes qui sont présents chaque année. Et pour cette sixième édition, vous ne dérogez pas à cette règle avec une très, très belle affiche. Alors, sans rentrer dans tous les détails, mais deux mots de la prog avec un bel équilibre aussi avec des découvertes et des artistes du coin. Et des noms aussi un peu plus connus et implantés dans le milieu du blues.
Oui, c'est ça. Alors, on essaie toujours un peu de mixer des groupes suisses et des groupes internationaux. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura les Belges de The Blues Bones le samedi soir en clôture. Le vendredi soir, on aura Cathy Boyer and the DTG Gang, donc qui nous viennent de France. Cathy Boyer, c'est une chanteuse qui fait aussi de l'harmonica. Et ça, on se réjouit de les accueillir. Ça va bien sonner dans le parc. Ouais. Effectivement, The Two le vendredi soir aussi, et puis en première partie de soirée pour le vendredi, Lucky Lee and the Cavalry qui viennent du Valais aussi, qui font du bluegrass, et c'est vraiment super. Et puis le samedi on reprend, donc avant The Blues Bones, il y aura The Strikers qui nous viennent aussi de France, qui font du blues rock assez péchu, et puis Vincent Brothers, donc Vincent Barbone, le local, le régional, qui est entouré de super musiciens et qui va nous faire des reprises blues endiablées. Ça va être vraiment
et c'est
super.
Aussi, c'est aussi ça l'âme du festival, c'est Vincent Barbone qui est un spectateur, qui est un musicien, qui sera sur scène, et c'est cet échange, c'est vécu par et pour des musiciens, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. C'est la force de ce festival.
Exactement, ouais, c'est une histoire de passion avant tout, quoi. C'est la musique qui est fédératrice et puis qui réunit tout le monde.
Alors on parle de musique, mais il y a aussi 2-3 défis logistiques cette année.
C'est ça, oui. Donc cette année, on aura de la vaisselle consignée qui nécessite une organisation en amont, trouver des fournisseurs et puis stocker le jour même, prévoir les espaces, etc. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté pour 2024. En plus, donc de toute la logistique habituelle du festival, quoi.
Et ça met une petite pression supplémentaire, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les éditions, on prend aussi de la bouteille, on est plus à l'aise pour faire face aux imprévus.
Exactement, oui.
Parce que là, il y en a. Hein.
Oui, il y en a. En commençant par la météo, disons que
c'est le premier point.
Le facteur, on va dire. Là, on espère toujours qu'on aura du beau temps. On a vraiment eu de la chance lors de toutes les dernières éditions. Donc vraiment, on touche du bois pour que tout se passe bien.
Ce sera toujours en été, on est d'accord, on fera pas ça au mois d'avril.
Exactement, oui, c'est bon. Les 9 et 10 août cette année, si vous voulez déjà noter les dates.
Vu que les saisons, elles sont toutes inversées, on verra.
Voilà, c'est ça.
Mais en général, il fait beau et il fera beau cette année. L'importance aussi de ce festival, c'est l'importance des bénévoles, qui ont un rôle extrêmement, qui est vital quasiment.
Oui, tout à fait, donc c'est vraiment eux qui font le cœur du projet. Sans eux, il n'y aurait pas de festival, tout simplement, il n'y aurait personne pour servir des bières, il n'y aurait personne pour monter, démonter, enfin, il n'y aurait rien, il y aurait le parc. Donc, oui, les bénévoles, on est en tout une septantaine à bosser le week-end du festival. Donc c'est vraiment une grosse équipe, donc qui est répartie entre le bar, le stand traditionnel de raclette, la scène, et puis on aura cette année une nouveauté, c'est une green team qui va s'occuper de faire en sorte que le parc soit tout le temps propre, donc qui va ramasser au fur et à mesure les éventuels déchets, etc., s'occuper de la gestion des poubelles, et puis faire en sorte que le parc soit un endroit agréable.
Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'ambiance qui y règne pour les personnes qui seraient encore jamais allées au Chablaisien Blues Festival? Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu qu'est-ce qu'on ressent là-bas?
Alors, on est un peu comme, c'est un peu un mini Woodstock, pour reprendre les termes du chanteur de Canet Heat qu'on a eu l'année passée, qui eux ont vraiment fait Woodstock en 1969.
Effectivement.
Donc, il a dit, hey, looks like Woodstock, mini Woodstock there. On était super flattés. Donc, c'est un peu ça, disons que, on a vraiment ce parc d'herbe et puis cette scène au milieu de Montaigne en fait, donc on n'a pas vraiment l'impression d'être au milieu d'une ville de 18 000 habitants et bon, on est libre d'aller partir vu qu'il y a pas de clôture, puis c'est vraiment, l'ambiance est conviviale quoi, c'est il y a pas vraiment d'autres mots, il faut venir pour voir.
Convivial, familial et de qualité. Donc c'est le Chablouse, ça sera les 9 et 10 août prochains. Pascal Viguelot, merci d'être venu nous parler de cette programmation.
Merci à vous.
Et on vous souhaite plein succès, bien évidemment, pour merci. Les 9 et 10 août prochains. Et on se donne rendez-vous au Parc du Crocheton.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
Radio Chablais, programme de nuit.
On en parlait mardi dans Attends, je t'explique, avec leurs deux cofondateurs David Rosset et Emmanuel Cottier. La troisième édition du Montreux International Guitar Show débute demain. Et avec de la nouveauté cette année, puisque pour la première fois, des ateliers ont été mis sur pied. Ils offrent la possibilité aux amateurs de venir gratter leur guitare et de recevoir des conseils de professionnels de renom, et ce, depuis le début de la semaine déjà. Un moment de partage que nous allons découvrir avec la plus progressive rock de nos journalistes, Martine Vustinaire, reportage.
On est aujourd'hui à Montreux pour participer à un atelier rock dans le cadre du mix, le Montreux International Guitar Show. Je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Cet atelier, Vincent Schmitt, vous qui êtes l'un des co-organisateurs, à qui est-il destiné ?
C'est destiné à tout le monde, à tous ceux qui veulent apprendre le style rock avec les profs qu'on a qui sont vraiment fabuleux. On a Jack Gardiner et puis Saturax. Et puis justement, c'est vraiment destiné à tous ceux qui adorent découvrir l'improvisation et la guitare électrique.
C'est la troisième édition du Montreux International Guitar Show, mais la première fois que ce type d'atelier a lieu. D'où est venue cette envie, David Rosset, vous qui êtes l'un des organisateurs?
Alors, on a eu avec Emmanuel, donc, qui est à la base du projet, quand on a discuté, on avait déjà cette idée de faire plus qu'un salon de la guitare. Les deux premières années, on a dû se concentrer sur le salon, et puis cette année, avec l'arrivée de Vincent dans la team, on s'est dit, c'est peut-être le moment de développer cette Mix Academy, et puis on va commencer par des camps. Donc, on a trouvé des artistes qui étaient motivés à le faire, on a un petit peu sondé des élèves, et puis voilà, donc ça fait partie du développement.
Il y a déjà du beau monde pour ce mix. C'est quoi pour vous, Emmanuel Cottier, l'objectif en tant que l'un des fondateurs de l'événement?
Le salon, c'est une chose, mais les master camps, on a vraiment envie de développer ce qu'on a créé. Ça s'appelle la Mix Academy avec Vincent, où justement l'idée, c'est de plus en plus offrir de cours intéressants durant l'année, durant les vacances. En fait, on apprend et puis on va évidemment faire plus, quoi, parce que c'est super intéressant et on vit une super aventure. Et puis les gens sont super contents. Donc on se dit qu'il faut en faire plus. Bien sûr, à 100%.
L'univers de la guitare est vaste. David Rosset, vous avez choisi différents ateliers. Comment est-ce qu'on met ça en place?
On se met dans la peau d'un élève et dire par qui on aimerait être inspiré. Qui fait quoi? Qui fait l'actualité? L'artiste. Aussi, quel artiste? Là, on a des youtubeurs qui sont réputés, donc on offre aussi l'opportunité aux gens de rencontrer ces gens-là en vrai, de passer une semaine avec eux, de discuter. On parlait de Thibaut Covin, ça va être Thibaut Covin, il a une vie extraordinaire, donc ça sera des échanges. Donc voilà, on essaie un petit peu de réfléchir à ça. On a des pistes déjà pour l'année prochaine aussi, et de dire voilà, est-ce que ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un? Et puis, on essaye. Puis après, parfois, c'est un pari qu'on fait. Et puis, ça marche ou ça marche pas.
On doit faire un barré, ouais. On doit faire un barré à la 7e case. Pas super évident.
Robin Angelini, vous êtes plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Saturax. C'est vous aujourd'hui qui donnez cet atelier rock. Comment est-ce que c'était ?
Les gens ont l'air très très contents. La veille, ils ont eu Jack Gardiner qui s'occupe. On est deux sur cette classe de rock. Et voilà, on explore des choses un petit peu différemment. Voilà, j'essaye de les emmener dans des chemins qu'ils n'empruntent pas habituellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver pas mal d'informations sur Internet. Donc voilà, de pouvoir sortir un petit peu de sa chambre et d'explorer d'autres parties de leur jeu, tout simplement. Voilà.
Ça vous apporte quoi à vous de donner ce cours ?
On rencontre les gens et puis après c'est des gens qui nous suivent souvent sur les réseaux, qui nous ont vus à tel endroit ou machin et tout. Donc voilà, c'est toujours un privilégié, même pour nous en tant qu'enseignants, on va dire. De passer du temps avec des gens et puis d'avoir le plaisir de leur transmettre ce qu'on peut leur transmettre.
C'est pas grave, c'est pas bien.
Tadeo Piana, vous êtes venu participer à cet atelier rock, pourquoi ?
Déjà, je suis venu toute la semaine parce que j'avais besoin vraiment de nouvelles matières sur lesquelles travailler. Ça fait un petit moment que je fais de la guitare et puis j'avais vraiment besoin d'avoir des feedbacks sur mon jeu et des plans à travailler. Et surtout, rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi. Et puis voilà, me donner plus de motivation pour continuer cette aventure, cette longue aventure qu'est la guitare, avec des personnalités que je suis depuis longtemps sur Internet. Et puis voilà, qui sont vraiment des valeurs sûres actuellement dans les domaines que j'aime. C'est exceptionnel. L'organisation est top. Les gens que j'ai rencontrés sont excellents. Franchement, j'ai passé vraiment un super moment. Puis c'est pas fini encore.
Et vous pouvez découvrir le monde de la guitare lors du Montreux International Guitar Show du 26 au 28 avril. Exposants, concerts et showcase sont à découvrir au Casino de Montreux.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
On va terminer ce mag avec un événement unique sur notre planète et qui se tient du côté. Le championnat du monde de tracassais. Xavier Borgeau, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tracassais ?
Alors, j'ai une petite idée, mais je suis pas un spécialiste.
On va utiliser une autre utilisation pour ce véhicule par rapport à ça. Le public devait payer en francs symboliques pour voir le show, hein. Et les premiers prix, c'était une assiette de filet de perche pour deux au resto du coin. Donc
ça avait commencé tout petit, mais en fait, aujourd'hui, c'est quand même un sacré événement.
Tout petit, et c'est vrai que chaque édition donc est bisannuelle, ça prend de l'ampleur. Hein. Déjà, la dernière édition, il y a deux ans, en 2022, on avait quand même eu un nombre record de plus de 32 ou 33 tracassés inscrits. Là, on est à 39 inscrits, tout en sachant qu'il y a une tradition de ne pas s'inscrire et de s'inscrire au dernier moment, donc de venir au début de
la dernière édition de son véhicule.
Voilà. Donc là, on est à 39, donc être peut-être à 42, ça commence à venir quelque chose. Donc il y en a encore qui traînent de ces véhicules quelque part, dans les granges.
Et ça suscite, je crois que c'était la dernière édition, il y avait des médias français qui sont venus. Alors on en sourit bien évidemment, mais ça montre quand même que ce côté populaire, festif et tradition, il est extrêmement important.
Non, et exactement, c'est vrai que le reportage de Transpi, le quotidien, je crois qu'en 3 minutes, il démontre bien ce que c'est que la journée au Tracassais, donc assez festeuse. Beaucoup de travail fait sur la décoration, donc il faut aussi reconnaître ça. Et c'est vrai que les gens aiment ça, aiment ce côté festif. C'est un peu un mini-carnaval, hein, si je peux dire, un mini-carnaval de Rio.
Ouf, ou un mini-carnaval de montée, moi ça me va être indirect, j'y vais. Mais avant de parler de la course à proprement parler, moi je voulais vous demander, comment ça se prépare un tracassais pour la course et comment la course se prépare elle-même ?
Alors, comme d'habitude, nous on sait rien. Ça veut dire que tout le monde sait que la course est le 27 avril, tous les compétiteurs, les concurrents savent que c'est le 27 avril. On communique ça normalement une année avant, ils savent, c'est le dernier week-end d'avril tous les deux ans. Et ils commencent à réfléchir en thème, hein, sur comment ils vont décorer leur tracassais. Et c'est le pas. Moi, j'ai vu la liste des gens inscrits. Et par rapport au titre des noms des tracassais, je peux essayer de deviner, j'imagine, certains décors. Mais voilà, autrement, le tracassais, la partie mécanique, ben, c'est vrai que souvent, il faut démonter le moteur, nettoyer le moteur. Enfin, il y a toute la partie mécanique, mais après, il y a toute la partie de décoration. Et ça, c'est vraiment à leur libre choix. Donc, ils font comme ils veulent. Certains investissent beaucoup de temps, beaucoup de moyens. D'autres veulent rester un peu plus légers. Donc, ça, c'est vraiment au libre choix, finalement, des propriétaires.
Et pour cette année, il y a une petite spécificité. Alors, ce n'est pas une limitation de vitesse à proprement parler, mais vous allez quand même faire un petit peu attention, quoi.
On va faire attention, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle le premier qui arrivait en haut, enfin, en moins de temps, qui gagnait la course. Et on a vu qu'avec les années, avec le nombre de concurrents, spectateurs
aussi.
Voilà, ouais. Ça pouvait venir un peu dangereux. Donc, on a décidé de faire un parcours d'agilité, où il y aura un temps de référence, celui qui est proche du temps de référence, avec des bonus malus par rapport à certaines activités le long du parcours les matins, donc ils verront bien. Et je pense que ça va ramener aussi un peu de piquant à la compétition, pas forcément le plus rapide qui va gagner, mais le plus agile.
Et en ce qui concerne les équipes, est-ce qu'on sait plus ou moins...
Un reportage qui a été fait par la TSR là-dessus, par Passement les jumelles, hein, désolé pour faire la pub, mais sur toute cette préparation en amont de ce de la réflexion, le travail sur la préparation du tracassais. Ah, clairement, non, c'est ça. On dirait, allez sur notre site, tracassais.ch, regardez les potes.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah, c'est beaucoup plus clair.
Ça y est, c'est officiel. La CD Festival a gentiment commencé, malgré qu'il est encore hier à Morgin. C'est que dans la région, on adore, on est ultra friands. Et il se trouve qu'il y a une petite fête organisée ce week-end à la patinoire d'Omté. Ça s'appelle le plus grand dance floor du Valais, Tragédie, tête d'affiche. Gaël Jvendi Bar.
Bonsoir.
Tu es organisateur, justement, du plus grand dance floor du Valais. À mon avis, tu vas pouvoir répondre à la question. Les festivals, c'est quoi?
C'est beaucoup de choses que les gens ne se rendent pas compte, parce que les gens voient effectivement le côté, on loue une salle, on fait venir des artistes, mais c'est beaucoup de travail. C'est sur un événement comme ça, c'est environ 4 mois, pas forcément à 100%, mais c'est environ 4 mois. On a une équipe de quasiment, de toute façon, on prend la sécurité, etc. On est jusqu'à une centaine de personnes, donc c'est quand même beaucoup de monde. Et voilà, beaucoup de complexité à résoudre. Là, par exemple, il y a les travaux qui sont sur qu'on lui autour de la patinoire, donc il a fallu gérer tout un tas de, enfin, comment est-ce qu'on fait venir les cas, etc. Donc il y a plein de petites choses qu'on se rend pas compte.
Donc pour toi, c'est avant tout ça, en même temps, t'es organisateur, c'est vrai que pour le public, c'est inconfortable, en fait, d'arriver et que tout soit organisé. Mais il y a énormément de jobs. Combien il y a de, on va dire, de secteurs ou de départements pour ton festival?
Il y a un secteur programmation déjà, ça c'est vraiment un métier à part entière, hein. C'est compliqué de le faire, mais pas le milieu. Il y a un domaine logistique pour tous les petits problèmes qu'on, en fait, nous on anticipe beaucoup de l'anticipation, il faut imaginer tout ce qui pourrait avoir comme problème. Il y a un secteur bar aussi, c'est quand même quasiment la moitié du revenu, donc on peut pas se louper, on a quelques heures en fait pour faire 4 mois de travail de chiffre d'affaires, donc on peut pas se louper. La partie organisation générale, la sécurité aussi, qui importe, il y a tout. Un bon de possibilités qu'il puisse y avoir des problèmes. Donc, c'est vraiment toujours anticipé. Et j'espère oublier personne. Je crois que c'est déjà les principaux.
Ça fait déjà quand même pas mal de monde.
Et la technique aussi. Très important, la technique.
Ah ouais, cela, il ne fallait pas les oublier.
Non, c'est presque le plus important.
Oui, parce que les artistes, quand ils viennent, ils ont souvent ce qu'on appelle un rider technique. Oui. C'est-à-dire, c'est un avenant au contrat où ils disent on a besoin de ci, de ça, au niveau des lights, au niveau du son. Ça prend énormément de temps également.
Alors ça, pour un DJ Snake, un gros groupe, ils ont des riders qui font des dizaines d'âges. On a des artistes un petit peu petits, donc c'est plutôt, on va dire, c'est relativement standard. Mais oui, il faut quand même prendre tout ce qu'ils ont besoin en termes de son, les soundchecks, tout ce qu'ils veulent de l'horloge aussi. Il y a des fois qu'on a des petites exigences, donc il faut bien. C'est quand même à chaque fois 10-15 pages de contraintes à étudier avant.
Et qui ont une valeur légale, d'ailleurs, en plus passer un avenant au contrat. Et est-ce qu'il y a justement cette année avec Tragédie, est-ce qu'il y a un petit trick, une petite particularité qui t'ont demandé pour les loges ou si tu peux en parler naturellement?
Non, nous on a la chance d'avoir un programmateur qui est dans le milieu depuis longtemps, donc il connaît très bien ce milieu-là, donc c'est un petit peu presque à la bonne franquette, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer cette étape où on a toute la liste des ils veulent telle bière, tel truc, ça. Donc c'est assez, on n'a pas trop de contraintes, d'exigences particulières pour aucun artiste cette année.
Parce que je sais que de temps en temps, il y a des pépites là-dedans, et t'en as déjà eu, en organisant un festival où on te dit, tiens, j'aimerais un truc vraiment pointu.
Oui, alors, maintenant que ça fait longtemps, je peux les dénoncer, mais je crois, un des pires que j'ai eu, c'est Vengbis, qui était en 2016 d'ailleurs, où il y avait des chips croustillantes. Et puis, donc quand ils sont arrivés, ils ont estimé que les chips croustillaient pas assez. C'est 1h du matin qu'on a dû, envoyer quelqu'un à faire le tour de tous les bars et tous les lieux de montée pour trouver des chips qui croustillaient suffisamment. Quand on a réussi à les trouver, ils ont goûté, ils ont dit c'est bon, ils ont posé le paquet, ils sont montés sur scène.
Donc, voilà, ça. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que vu que c'est un avenant trace, il y a quelque chose qui manque, ils peuvent ne pas jouer leur concert et quand même être payés.
Oui, il y a toujours un petit peu ce rapport de, comment expliquer ça?
Ce qui est honnête.
Au final, ils s'en foutent de ces chips. C'est juste pour montrer, voilà, nous, on est là, il y a toujours un petit peu, on teste à quel point l'organisateur accepte pas, voilà, c'est presque une sorte de jeu comme ça parfois.
Bon, au moins, ils se croustillent.
Ils ont eu leurs chips au final, ouais.
Bravo à l'équipe de les avoir trouvés. Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute, s'il te plaît, merci d'être venu parce que c'est une excellente occasion pour le faire. Hey ho, de Tragédie.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Pour notre invité, les festivals, c'est beaucoup de choses que les gens ne voient pas nécessairement. C'est un truc qui se centre beaucoup sur l'anticipation maximale de tout ce qui pourrait arriver. C'est du job, 4 mois pour le plus grand dance floor du Valais, qui se tiendra d'ailleurs ce week-end à Monté. Pour de la programmation, la technique, le bar, l'organisation et la sécurité, ça demande tout ce travail. Avec des artistes en ce moment, c'est de plus en plus à la bonne franquette pour le plus grand dance floor du Valais. Mais des fois, c'est aussi aller chercher des chips croustillants à 1h du mat, plongeons-nous, Gaël Jvendi, organisateur du plus grand dance floor du Valais, plongeons-nous dans la programmation. Commençons par ce samedi, le 27 avril, à la patinoire de Monté. Qui c'est qu'on va pouvoir écouter et voir?
Alors ce samedi, c'est la traditionnelle soirée année 90-2000 qu'on a débuté en 2016. Donc si j'enlève le Covid, ça fait je crois la 7e édition, sauf erreur. Et on invite à chaque fois au moins un artiste qui a fait un grand hit dans ces décennies-là. On avait reçu Cascada, Bass Hunter, Rednex, Nadia l'année passée.
Ouais.
Et cette année, on a voulu rester sur le côté un petit peu français. Donc on a booké Tragédie, qui sont les auteurs du titre qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes.
C'est énorme, Tragédie. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui doit sauter au plafond, beaucoup d'adolescents que nous étions. Mais bon, ça c'est en plus de Tragédie, qui c'est qu'on va pouvoir voir, parce qu'il y a des DJ avant et après, c'est juste, hein?
Oui, il y a deux DJ qui sont très très doués dans plein de domaines, mais particulièrement dans celui-là. Donc il y a vraiment tous les titres qu'on a adoré, ça va des Spice Girls là, Fatal Bazooka, Céline Dion, vraiment de toute la décennie 90 jusqu'à 2010 environ.
Ah, c'est malheureux pour les personnes de mon âge. Mais parce qu'on va rentrer avec des courbatures, parce que bon, moi je fais partie de ceux qui sont plus tellement jeunes, mais la semaine prochaine, là par contre, on pense justement aux plus, enfin, à ceux qui sont un peu moins vieux. Qui c'est qu'on aura le 4 mai au même endroit, la patinoire de Montet?
Faut quand même dire que sur la réalité, on a un public vraiment très vaste. Hein. Faut pas penser qu'il y a que des 30, 40 ans. Il y a vraiment, ça débute à 18 ans et puis ça va jusqu'à 30, 45 ans. Il y a vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup en Valais d'ailleurs, c'est que les gens se mélangent et tout, ce qui est pas forcément toujours le cas, mais là, on a vraiment tout plein de différentes personnes et c'est ça que j'aime beaucoup.
Alors, voilà. Génial!
Et pour le week-end prochain, parce qu'on revient effectivement samedi prochain, là on est sur plutôt des musiques actuelles. Donc là effectivement on est sur un public un peu plus jeune et on reçoit deux artistes qui sont très connus, on va dire sur les 18-25 ans, qui sont NASA et Que Black.
Quel genre de musique ça va être pour les vieux comme moi?
Alors musicalement on aura un petit peu de tout, on aura un peu d'électro, on aura un peu de rap, un peu d'hip-hop, tout ce qui se fait maintenant, ce sera assez populaire, donc assez festif quand même. Et les deux artistes qu'on a, ils sont, je dirais c'est du rap, mais c'est presque, on vire presque sur la pop des fois, c'est très, très commercial.
Et puis, on va revenir à ce week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir, parce que je crois que vous avez mis un petit peu des moyens au niveau technique pour nous en mettre plein la vue, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ça, nous donner 2-3 infos?
Alors chaque année, c'est vrai que ça devient gentiment un rendez-vous que les gens apprécient et rien, donc chaque année on essaie d'augmenter un petit peu les infrastructures. Cette année on a voulu faire un écran, enfin on a beaucoup misé sur l'écran LED, donc il y aura un écran LED de 11 mètres de haut, donc quelque chose d'assez dingue. On a dû d'ailleurs rajouter de la puissance électrique parce qu'il n'y avait pas ça dans la patinoire, donc on a rajouté des câbles, des tableaux, etc.
Ça c'est un truc de voir rajouter de la puissance électrique dans une patinoire. Continue.
Oui, c'est pour dire à quel point il y aura vraiment de la technique. Donc je ne vais pas trop en dévoiler parce qu'on garde un petit peu côté surprise. Si on se base sur l'affiche, on est sur un thème Poséidon cette année, donc ça donne déjà un petit indice sur le genre de contenu qu'on pourra avoir diffusé.
Et toi, à organiser ce festival-là, qu'est-ce que tu ressens finalement? Est-ce que c'est juste un business ou bien est-ce qu'il y a un vrai kiff derrière?
Non, c'est un vrai kiff. Je conseille à personne de le faire juste pour le business parce que c'est beaucoup de travail, c'est des grands risques aussi. Hein. Là, on est sur un budget qui est pas loin des 100 000 francs quand même, donc c'est quand même un grand risque. On doit vendre beaucoup de billets. C'est beaucoup de stress aussi. On apprend à le gérer au fil des années, mais... Il y a quand même toujours une semaine avant un stress de savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça s'est toujours bien passé d'ailleurs, mais il y a quand même ce petit stress qui perdure. Mais il faut être très passionné, je pense, pour être là-dedans.
Ouais, justement, en parlant d'organisation de festival, en Suisse, on est un des pays d'Europe qui en organise le plus. J'avais fait une fois une recherche pour l'université. Quand j'étais à l'Uni, en 2012, il y a eu 430 et quelques festivals. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Le plus compliqué, c'est quoi? C'est trouver une date?
Trouver un lieu déjà, parce qu'il y a, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a, voilà, il y a plein de communes qui du coup disent non, on veut, ça fait du bruit, on veut pas, donc faut déjà trouver le lieu. Nous on a un bon programmateur, mais en dehors de ça, c'est compliqué de booker les artistes, de montrer pas de blanche. Il y a rien de fondamentalement difficile, mais tout réunir ensemble, c'est, voilà, beaucoup de choses à faire, c'est la réunion de tous les éléments qui font que ça devient assez complexe.
Donc en fait, par séparé, on va dire par fascicule, ça va, c'est gérable, mais tout ensemble, c'est compliqué. Donc c'est d'autant, enfin c'est ça la raison pour laquelle t'as autant de monde finalement qui travaille pour une ou deux soirées.
J'ai fait l'erreur au tout début, hein, donc il y a une dizaine d'années en arrière, de vouloir faire un maximum moyen, mais on se fait vite déborder. Donc je dirais le plus important, si je vais choisir une chose, c'est d'être bien entouré, parce que c'est très compliqué d'être bien entouré. C'est un des points primordiaux.
Et un petit mot pour les personnes qui stateraient encore, qui se demandent déjà, est-ce qu'il reste encore quelques entrées pour samedi et pour samedi 4 mai, pour samedi 27 avril et 4 mai?
Alors, il reste des entrées, ça se vend très bien, on est très contents, et surtout, il y a un tarif évolutif, un petit peu comme EasyJet, où plus on attend, plus les prix sont chers, donc vraiment, je conseille à ceux qui n'ont pas encore pris le billet de le faire maintenant, parce que les prix vont grimper, et il doit peut-être rester 20 à 30% des billets, donc, mais ça part assez vite.
Et puis, un petit mot, justement, qui pourrait les motiver, une petite dernière phrase.
J'ai envie de garder un peu la surprise, mais ça va vraiment être quelque chose de... Techniquement, on va faire vraiment un truc unique. Et puis voilà, c'est une patinoire, on transforme un lieu complètement qui n'est pas du tout fait pour ça. Il y a vraiment une super bonne ambiance à chaque fois. Donc
on va en prendre plein la vue. Exactement. Dans un endroit spectaculaire qui n'est pas prévu, qui n'est pas habituel, donc dans lequel on ne va pas forcément pour ça.
C'est ça qu'on aime, c'est prendre des lieux qui ne sont pas du tout faits pour ça. On a un autre festival qui s'appelle Le Plus Grand Lune de Suisse, où on prend aussi des grands volumes un peu cubiques comme ça, on les transforme complètement, et c'est ça qu'on aime faire.
Bon, écoute, bon vent au plus grand dance floor du Valais. Battez-vous pour les quelques entrées qui restent pour aller voir Tragédie, si vous êtes plutôt de ma génération ou amant des années 90 et 2000. Et puis, la semaine prochaine, rappelle-moi juste les noms des actrices, c'est NASA et Keblack.
NASA et Keblack. Et on a aussi un événement à 19h pour les moins de 18 ans, parce qu'on a toujours les moins de 18 ans qui nous disent, mais on peut jamais venir aux événements.
Donc, il y a une live party.
Voilà, là on aura Bébé, qui est un des, je sais pas si tu connais un peu, c'est une star de la télé-réalité, et puis NASA qui fait du coup un double show, donc un show pour les moins de 18 ans à 19h, et puis après la soirée qui revient pour la soirée.
Et une page web, on peut trouver tout ça?
Oui, c'est oniriafestival.com, comme ça se prononce au singulier.
Ben c'est parfait, on a toutes les informations. Merci infiniment Gaël Schwendi. Je rappelle que tu es organisateur du plus grand dance floor du Valais à monter, qui se tiendra ce samedi 27 avril avec Tragédie et le 4 mai avec NASA Keblack. Merci infiniment d'être venu maintenant lancer un petit peu plus sur les festivals. Je te souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup.
Radio Chablais, programme de nuit.
C'est chaud, c'est chaud.
Sur le grill.
Oh, la drame, autrefois appelée la dramatique, propose une création 2024 à Aile. Stéphane Gabiou, bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane Gabiou, déjà juste rappeler quand même, parce que moi j'adore l'histoire, que la drame, c'est une des plus vieilles sociétés aiglonnes.
On peut le dire, on a fêté nos 100 ans il y a 2 ans, donc c'est une vieille dame mais qui se porte bien. À 102 ans, je peux vous dire qu'elle se porte toujours très bien.
Alors justement, 102 ans d'existence, la drame qui propose une création qui s'appelle Homme... Expliquez-nous cette création.
Alors pour tout vous dire, on s'est intéressé aux femmes il y a une dizaine d'années, c'était un gros travail déjà, hein. Et 10 ans plus tard on s'est dit mais pourquoi pas s'intéresser une fois au masculin, et c'est ce qu'on vous propose effectivement dans ce spectacle qui est rempli de petits sketchs, de petites scénettes autour de voilà la figure de l'homme. Aujourd'hui en 2024, c'est parfois un peu compliqué d'être un homme, parce qu'on peut plus être le gros macho sur son piédestal qui a tous les droits, et notamment sur les femmes. Heureusement, la société a beaucoup évolué, et donc on s'interroge un peu sur la place de l'homme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'être un homme aujourd'hui en 2024? On le fait avec, je vous rassure, beaucoup d'humour, mais aussi pas mal de poésie.
Alors, justement, poésie et humour, pour amener un sujet qui est effectivement sensible, il y a un changement rapide de notre société dans tout, et justement, dans la position masculine, on doit, les hommes, retrouver aussi un peu notre place, exister dans tout ce qu'on a envie, parce qu'on aime aussi, nous, ce monde-là, si on le présente comme ça, c'est de cette manière-là, mais on doit exister.
C'est ça, exactement. Et donc, on a sur scène, pendant ce spectacle, régulièrement des hommes qui viennent un peu, voilà, nous partager avec nous ce côté un peu genre, bon, qui est-ce que je suis vraiment, et qui est-ce que j'ai le droit d'être en tant qu'homme, est-ce que j'ai le droit encore de faire ça, d'être justement un petit peu macho, un peu peut-être avoir de la testostérone, mais en même temps je dois être très sensible, je dois être un très bon père, je dois être un bon amant, je dois être un bon mari, je dois être un bon grand-père aussi. On a aussi un sketch qui raconte cette relation entre un grand-père et sa petite-fille. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des comédiennes, donc ça veut dire qu'on a des personnages féminins qui apparaissent, et là c'est aussi un peu la même chose, c'est dans le fond les femmes, comment est-ce qu'elles se positionnent par rapport à nous les hommes d'aujourd'hui 2024, comment est-ce qu'elles arrivent à tisser peut-être une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être avec les hommes.
Alors comme c'est une création, on va justement parler de cette création, puisqu'on imagine que les dames ont donné leur point de vue dans cette création, on va le présenter d'ici quelques instants. Juste rappeler, ce spectacle, c'est en plus dans un caveau magnifique au cœur de la rue de Jérusalem à Aigle. On est dans un lieu, là aussi, chargé d'histoire et qui en impose quand même.
Oui, c'est assez magique comme lieu. C'est l'ancienne génération, dans le fond, de la Drame qui avait trouvé ce lieu, qui l'a transformé pour en faire un lieu absolument magique, vous le dites, Cyril, dans lequel on adore accueillir notre public. Ça fait maintenant bientôt 50 ans que ce lieu vit grâce au théâtre et grâce à ce qu'on peut proposer dans nos spectacles.
On rappelle donc cette création de la Drame Homme avec un astérix, il faut le rappeler, ladrame.ch. C'est du 25 avril au 5 mai à 17h. Toutes les réservations ladrame.ch ou au 076 735 42 52. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant. On se retrouve d'ici quelques instants.
À tout à l'heure. C'est chaud.
Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Homme avec un astérix, c'est la nouvelle création de la Drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi à 20h, les samedis à 19h et les dimanches jusqu'au 5 mai à 17h, ouverture des portes et du bar, 30 minutes avant la représentation. On le disait il y a quelques instants, c'est au magnifique caveau de la Dramatique à la rue de Jérusalem, à aigledladrame.ch pour toutes les infos. Stéphane Gabion, on continue justement à parler de ce spectacle Homme avec un astérix. Pourquoi cet astérix?
L'idée, c'est probablement de se dire qu'il n'y a pas qu'un type d'homme aujourd'hui et que derrière l'astérisque, on peut voir cette diversité du masculin aujourd'hui. On avait envie un peu de mettre ça en avant. Et puis, on s'est beaucoup amusé. Là, c'est surtout les filles de la troupe qui se sont amusées notamment à écrire un sketch qui s'appelle La Métamorphose, dans lequel elles imaginent ce que ce serait d'être un homme pendant 24 heures. Donc, elles se retrouvent dans un cabinet d'un thérapeute qui offre ça. Et donc, mesdames, pendant 24 heures, vous allez pouvoir vous retrouver dans la peau d'un mec, en fait, d'un homme. Et qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant que femme? Qu'est-ce que je souhaiterais être comme genre de mec si j'avais 24 heures à disposition?
C'est très sociologique comme spectacle. C'est hyper intéressant parce que, justement, les femmes ont pu enfin s'émanciper. Les femmes existent de plus en plus et de la plus belle des manières dorénavant. Mais maintenant, justement, l'homme, c'est le but de ce spectacle, doit trouver sa place au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes de la troupe, et comment elles écrivent? Parce qu'elles ont toutes aussi des avis différents.
Moi, je pense qu'elles sont très sensibles au fait que aujourd'hui, les hommes, ils ont effectivement peut-être développé davantage de sensibilité, davantage de peut-être de modestie. On disait tout à l'heure, voilà, ils sont peut-être redescendus de leur piédestal. Et je pense que les femmes, j'ai l'impression qu'elles aiment ce nouvel homme aujourd'hui et qu'elles nous encouragent à aller dans cette voie. Mais en même temps, elles sont toujours tiraillées, titillées un peu par peut-être la force tranquille qu'on peut exprimer nous les hommes. Et elles recherchent aussi ça. Alors, est-ce que j'ai encore le droit aujourd'hui, en tant que femme, d'aimer des hommes qui sont un peu machos, un peu virils, etc. Donc, on a un sketch, par exemple, qui raconte ça, dans le fond, d'une femme qui dit, mais attends, moi, je sais que normalement, je suis plus censée aimer ce genre de caricature de l'homme, mais en même temps, je suis quand même un peu attirée. Donc, comment est-ce que je peux, aujourd'hui, en 2024, avancer avec tout ça?
C'est sociologique en même temps comme spectacle. Vous le traitez avec poésie, avec beaucoup d'humour, donc on va passer un très très bon moment. Et en même temps, forcément, on va réfléchir un petit peu à la position de lui ou d'elle, de notre relation, ou même pas, même en tant que célibataire.
Exactement. En fait, le but, c'était effectivement, vous dites, Cyril, c'est sociologique, on a l'impression que c'est un peu intellectuel. Nous, on voulait pas ça. On voulait qu'on rigole beaucoup, qu'on soit touché aussi, qu'il y aura de l'émotion, il y aura de la poésie, mais qu'on ressorte avec, dans le fond, des réflexions. Qu'on partage un petit peu, qu'on brasse un petit peu toutes ces idées autour du masculin, du féminin aujourd'hui, mais effectivement plutôt dans une bonne humeur.
Dans de la bonne humeur, en passant un très très bon moment, et c'est le meilleur moyen de peut-être se lâcher et d'échanger. On rappelle, Homme avec un astérix, c'est la création de la Drame pour cette saison 2024. Ça commence ce soir, jeudi, c'est à 20h tous les jeudis et vendredis, les samedis à 19h et les dimanches à 17h jusqu'au 5 mai. Ouverture des portes et du bar 30 minutes avant la représentation dans le magnifique, on le répète, caveau de la Dramatique à la rue de Jérusalem à Aigle, ladrame.ch ou le 076 735 42 52. Plein succès à vous, Stéphane Gabion, merci.
On prend, c'est très gentil. Merci, Cyril.
C'est chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde, c'est toujours Colombet.
On sort du monastère des Bernardines, on profite de cette quiétude, il y a les oiseaux qui piaillent. Il fait bon, il fait frais, il a failli neiger ce matin, mon très cher guide Emmanuel.
Effectivement, la météo n'est pas à la hauteur de nos espérances, je dirais, voilà, ce matin.
Il y avait de la neige mélangée à de la pluie ce matin chez vous quand je suis arrivé. Et on est le 18 avril, tout va bien. Bon, on va donner envie aux gens de venir au Nombril du Monde ici à Colombey. Qu'est-ce qu'on a comme activité ou comme événement à ne pas manquer ?
Alors, je dirais qu'il y a toujours les activités sportives. Si quelqu'un veut s'établir dans la commune, je pense qu'il y a toujours un club sportif qui est à sa dimension, à ses attentes. À part ça, il y a toujours des clubs culturels, enfin des sociétés culturelles, les fanfares, les chorales. Chorales qui ont des niveaux assez intéressants. Et puis, à part ça, il y a une commission culturelle de Colombey-Murat qui fait toujours une série d'événements sur la commune chaque année, très éclectique, c'est très intéressant, de beaux événements. Alors, je pense qu'il y a de quoi faire déjà à Colombey-Murat.
Donc là, on peut aller regarder colombeymurat.ch.
Oui, et puis sur le site de la commune, il y a tous les événements qui sont écrits normalement.
C'est vrai que la commission culturelle ici, elle bosse pas mal. Hein,
ah, je trouve qu'elle fait un joli travail, effectivement. Vraiment des choses très éclectiques dans tous les domaines, cinéma, concerts, spectacle comique, etc. Donc bravo à l'équipe. Là.
Et puis la fête au village, c'est quand ici ?
La fête au village, normalement, c'est vers la fin août. Je n'ai pas la date précise en tête, j'ai un petit peu honte. Mais allez sur Internet, vous trouverez. Mais c'est lieu de rendez-vous des vieux colombérous et des gens qui apprécient le vin, puisque chaque fois qu'il y a la fête au village, il y a Viti Colombey avec une quinzaine d'encaveurs, tous plus intéressants que les uns que les autres. Peut-être que les derniers, on arrive moins à se rendre compte de la qualité du vin, vu les dégustations précédentes.
Et puis sinon, il y a aussi... De quoi se balader par ici, parce que le bois des Fauges...
Alors, le bois de Fauges, je dirais plutôt, moi...
En patois, oui.
En langage de Colombey, le Fauges. Alors oui, il y a tous les chemins en dessus du village de Colombey, sur la route du sentier des blocs erratiques, qui est très intéressant. Et c'est toujours intéressant de voir les murs de soutènement sur ces chemins, qui nous rappellent justement que les chariots arrivaient dans ces forêts. Puis maintenant, on peut monter en altitude, on a des Mayens, on a également la pointe de Bellevue, et puis des sentiers pédestres qui nous y mènent, et qui sont absolument splendides. Et si vous aimez la montagne, il y a le sentier qui fait l'arrêt de Préfleury. Vous partez du restaurant de Chalet-Neuf. Vous avez une boucle qui dure à peu près 2h30 et qui passe par l'arrêt de Préfleury, la Combe de Dreveneuse. Vous remontez ensuite sur la Croix de Bellevue. Vous redescendez sur le restaurant de Chalet-Neuf. C'est une petite balade qui est absolument superbe avec beaucoup de paysages différents sur 2 heures de marche. Splendide. Mais un petit peu aérien quand même, suivant les endroits.
Va et découvre ton pays, c'est exactement ce qu'on vous propose tous les matins. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots. Alors que tous les maladroits et maladroites se rassurent, je ne vais pas parler de vous dans cette chronique, ou très peu du moins. Ce sera principalement pour la deuxième heure. Aujourd'hui, en fait, c'est de l'animal dont on va parler. Alors, première des choses, ne pas confondre les pingouins avec les manchots. Déjà, ils ne sont pas de la même espèce. Et puis, les pingouins, ils ont des ailes et ils peuvent s'en servir, contrairement aux manchots qui ne volent pas, malgré le fait qu'ils ont des ailes. Et donc, même si cette journée en anglais s'appelle World Penguins Day, ben c'est bien des manchots dont on parle. Pourquoi ? Eh ben tout simplement parce que les manchots sont en voie de disparition. La banquise continue de fondre et ça fait énormément de dégâts sur l'écosystème. Alors pour faire court, il y a pas que ça. Il y a à cause du réchauffement climatique, à cause de la surpêche ou encore à cause de la pollution marine, il y a 11 espèces sur 18 qui sont menacées d'extinction au jour d'aujourd'hui. Et cette journée mondiale, eh ben du coup, elle sert à mettre en lumière toutes les nombreuses menaces qui pèsent sur les manchots et qui les obligent à s'éloigner de plus en plus des lieux de nidification pour aller chercher à manger. Et du coup, aujourd'hui, on met en lumière les différentes choses à mettre en place pour sauver les manchots de l'extinction. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un peu déprimant comme news de bon matin. Donc, revenons à ma question improbable initiale pour cette chronique. Pourquoi est-ce que les manchots sont maladroits ? Alors, de ce que j'ai pu comprendre de mes petites recherches, c'est parce que sur Terre, ils sont pas méga agiles. En fait, ils se dandinent en marchant, ils gardent les ailes ouvertes pour essayer de garder l'équilibre. Ils donnent vraiment l'impression d'une grosse maladresse. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé des vidéos de manchots qui marchent. J'avoue, c'est assez drôle. Mais je trouve qu'on dirait vraiment qu'ils titubent comme s'ils rentraient de soirée à marcher avec les bras écartés pour garder l'équilibre ou se protéger d'une chute éventuelle. Alors du coup, maintenant que j'y repense, je sais pas si je dois rire ou être vexée qu'on m'ait traité de manchotte durant toute mon adolescence. Mais si c'est votre cas, eh bien, restez bien à l'écoute parce que dans la deuxième heure, on va déconstruire ensemble cette image de maladroit inconditionnel liée aux manchots. Voilà, voilà.
La question improbable.
Pourquoi les pizzarons, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais. Radio Chablais. Programme de nuit.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais.
Alors, dans la première partie d'émission, on a parlé des manchots et de pourquoi ils sont considérés comme maladroits. Alors, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, c'est parce que les manchots ne sont pas très adroits sur Terre. Ils titubent en marchant et doivent garder leurs ailes ouvertes pour garder l'équilibre. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des manchots et j'ai décidé de déconstruire ce mythe parce que même si les manchots sont des oiseaux qui, sur Terre, ont l'air d'être dans un état d'ébriété constant, ils sont en revanche méga habiles dans l'eau. Alors déjà, ils sont capables d'atteindre des